3. Dale.
Todo es la música. Bienvenue sur la Comme en Live, l'émission qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité communautaire du consistoire israélien du Bas-Rhin.
Boker Tov à toutes les auditrices, auditeurs de Radio Judaïka pour ce nouveau numéro de la Com en Live. Olivier Boker Tov.
Boker Tov. On a l'occasion de se retrouver dans un endroit un peu atypique et dans un contexte un peu plus atypique que d'habitude.
Exactement. Nous ne sommes pas dans les studios de Radio Judaïka. Ce sont des studios improvisés dans le bureau du président de la communauté grâce au nouveau matériel d'Olivier Samuel, petit Radesh.
On est là qui ressemble. Fait brara.
Cette semaine, nous avons une invitée tout à fait exceptionnelle. Je vous propose de lancer la première chronique.
Allez, on lance la chronique.
Le bénévole de la semaine.
Andale, andale, andale.
Invité exceptionnel, je le disais, de ce Shabbos Project, édition 5785, Madame Dvora Serao, Boker Tov.
Boker Tov.
Boker Tov, Dvora.
Bonjour.
Alors, on a passé un Shabbat tout à fait exceptionnel à Strasbourg, très, très enrichissant. Je me permets de vous poser une première question très banale. Mm-hmm. Quelles sont vos impressions après ce Shabbat strasbourgeois ?
Alors, c'est très drôle que vous me posiez la question, parce que j'en parlais justement avec mes enfants et mon mari, hein, puisqu'un Shabbat, ça se passe en famille, c'est l'une des premières leçons. Et je me disais que si je jouais au jeu des sept différences entre Shabbat à Strasbourg et un Shabbat à Boulogne-Billancourt où on habite, ou même un Shabbat à Anvers où nous avons habité.
Anvers.
Oui, on vous racontera un jour. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de différences. J'ai envie de dire que la première différence, écoutez, pour moi en tant que femme, c'est la première fois que je vis ça, c'est la première fois que je suis invitée par une communauté pour m'adresser à elle, prendre la parole à deux reprises, une troisième reprise ce matin, dimanche, on aura l'occasion d'en parler. C'est la première fois que la Torah que j'enseigne depuis 25 ans et que je vis depuis la naissance, c'est la première fois qu'on me donne l'occasion, l'opportunité d'en faire la démonstration. Et à ce titre, en tant que femme, personnellement, j'en suis extrêmement touchée et je suis très honorée pour toutes les femmes qui, comme moi, font ce métier de chinour, d'éducation et d'enseignement, puisque bien entendu que je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut continuer à être très exigeant pardon, sur l'éducation des jeunes filles et des jeunes femmes et des femmes tout court parce qu'on ne peut pas se priver de cette qualité d'enseignement et que pour moi l'étude de la Torah doit être enseignée et doit être transmise. Donc voilà, donc c'est l'une des premières différences. Je pourrais vous parler bien entendu du Hérouve. Je pourrais vous parler d'une communauté qui a priori nous a l'air ashkénaze et pourtant au repas de Shabbat on a mangé du couscous et du poisson à la marocaine. Je pourrais vous parler de l'immense synagogue où je crois on entend mieux le discours du rabbin quand on est une femme que quand on est un homme, parce qu'en bas je pense que l'écho et l'acoustique n'est pas aussi bonne que quand on est chez les femmes, donc c'est encore un avantage. On pourrait parler du nombre de poussettes qui sont parquées dans le bas dans le hall de la synagogue, un parking à poussettes, exactement, de l'ascenseur de Shabbat, voilà, énormément de
c'est vrai que c'est des choses que nous
vous y êtes habitués, vous le prenez comme acquis. Il faut savoir que ça n'est pas acquis. Je ne peux pas ne pas parler de la question du Hérouve, et encore une fois en tant que femme je crois que les psys à Paris seraient bien moins riches s'il y avait un Hérouve à Paris, dans ce sens où je pense que c'est une véritable souffrance pour les femmes que d'être enfermées le Shabbat, et qu'on constate de plus en plus que des femmes malgré tout se rendent à la choule en poussette et qu'elles bravent cet interdit même s'ils continuent à faire tout ce qu'il faut pour Shabbat, parce que cet isolement est vraiment très très mal vécu et que j'espère qu'on pourra vraiment s'atteler à cette question un jour à Paris aussi.
Dvora, tu nous parlais d'une spécificité aussi de Strasbourg, et dans ton Dvar Torah vendredi soir ou samedi matin, je ne me rappelle plus lequel, tu disais, tu commentais la paracha de la semaine avec ces deux endroits où était Abraham, et en plus Harold me disait, le grand rabbin me disait, c'était son commentaire de l'année précédente qu'il avait utilisé, donc vous aviez partagé quelque chose de commun là-dessus. Je crois que c'est aussi un peu la spécificité que tu as trouvée à Strasbourg dans cette...
Alors oui, effectivement. Alors d'abord, j'étais très heureuse de trouver confirmation auprès du grand rabbin dans le Dvar Torah que j'ai pu prononcer vendredi soir. Je vais le dire en deux mots pour les auditeurs, pour ceux qui n'étaient pas là et qui ont vraiment raté vendredi soir. Je vous invite à venir à tous les événements de la communauté. Vous voyez, je fais bien travail pour vous. Non, mais c'était très très touchant de voir autant de monde venir écouter quelqu'un qu'il n'avait jamais vu ni entendu. Et donc j'ai pu rappeler que juste avant, alors je me suis un petit peu trompée, mais c'est pas grave, l'erreur est humaine. dans l'ordre des événements de la paracha, juste avant de la rencontre donc avec Avimelech qui va vouloir, qui convoite la femme d'Avraham, un passouk très étrange nous dit deux choses. On nous dit qu'Avraham s'installe dans une région mais qu'il séjourne dans une autre. Donc moi je ne sais pas comment on fait pour habiter en deux lieux en même temps. Donc pourquoi ? Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch apporte
être,
une...
rabbin au grand rabbin à Strasbourg. On peut habiter dans plusieurs endroits.
Alors vous habitez à un endroit et vous séjournez dans d'autres. Mais vous devez avoir, vous devez forcément avoir un lieu fixe. Donc
il habite chez lui, il séjourne dans son bureau. La communauté.
Oui, c'est un peu le propre des gens qui font de leur vocation, de leur préoccupation journalière, de leur parnassa aussi leur c'est manière de vivre. Voilà. Et donc Avraham, on nous dit ces deux choses-là, on nous dit qu'il s'installe. Alors il s'installe dans une région désertique, il va bientôt avoir un enfant et donc il a envie de le protéger. Donc c'est un peu le propre hein, de nos pères, ils aiment bien être un peu isolés, un peu cette hantise du social tout le temps. Hein. Nous aussi on connaît, hein, on a besoin de répit un peu de temps en temps, on a besoin de repos, on a besoin de protéger ce temps où on est avec nous, avec notre famille. Mais en même temps on nous dit qu'il séjourne à Guérar. Alors Guérar c'est la métropole de l'époque, hein. C'est le siège des Philistins, c'est là qu'il y a un roi, c'est urbanisé, c'est développé. J'imagine qu'il y avait des marchés, il devait y avoir toutes sortes de choses. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous donne une interprétation super intéressante en termes d'éducateur. Oui, il fallait un endroit où on avait sa vie de famille et sa communauté, mais il y avait aussi l'endroit où on allait en ville. Et je racontais que vendredi après-midi, une amie m'avait retrouvée à la choule vendredi soir et elle me disait « Oui, cet après-midi, c'était la course, je suis allée en ville ». Pour acheter des chaussures à ma fille. Et là, j'ai rigolé parce que il y a qu'à Strasbourg qu'on peut dire quelque chose comme ça. Parce qu'il y a l'endroit en ville, c'est toujours la ville, où on vit avec sa communauté et sa famille, puis il y a l'extérieur. Ben, c'est la même chose. Dans l'éducation juive, il faut trouver une balance, un équilibre, d'autant plus, encore plus, j'ai envie de dire, c'est une fierté française, juive, que de savoir trouver cet équilibre. Et puisque nous sommes le peuple des Hébreux, on jette des ponts, hein. C'est notre, voilà, on pourrait tous être sortis de l'école des ponts et chaussées, puisque on crée des ponts en tant qu'ivrim, et d'avoir ce pont entre notre famille, nos premiers cercles dans lesquels on évolue, et la grande ville. Et Avraham n'a pas voulu priver son fils de cela. Il avait bien prévu dans son programme éducatif que l'éducation juive de son fils, c'était bien sûr d'être très fort sous la tente à étudier, mais aussi d'avoir cet apport et de prendre ce qu'il y a de meilleur dans ce que la ville peut apporter. Et ça fait vraiment écho à ce qu'on disait ce matin, mais on va peut-être avoir
l'occasion d'en reparler. Raconte-nous comment ça fait écho, je ne sais pas, qu'est-ce
que tu en penses ? Non, c'est... pas pour rien que j'ai partagé cette idée avec le Tibourg. Bon, je suis un grand fan, comme beaucoup d'en le savent, de Rav Shimshon Raphaël Hirsch.
Et pas que lui, avec beaucoup de rabbins.
Je sais que tu as été particulièrement impressionné par les noms très exotiques.
Il y a toujours des références à des rabbins exotiques.
Des rabbins
qui ont été... Je suis sûr qu'il en invente certaines fois, mais ça, j'ai pas le droit de le dire en public.
Non, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un quiz et voir combien sont ceux qui connaissent vraiment les gens que vous mentionnez, dont vous parlez. Quiz de Hanouka, il faut faire un caout là.
Ah, donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chassidoutes ces dernières semaines, donc beaucoup de noms
de
grands auteurs chassidiques avec des noms de villes qui sont parfois un peu inhabituels et qui ont amusé pour certains notre ami Olivier Samuel. C'est vrai que Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on l'aime surtout pour ses qualités d'éducateur, puisque Rav Shimshon Raphaël Hirsch, avant d'être un génie de la Torah et du commentaire de la Torah, c'est surtout un éducateur du commun. On sait le travail qui a été le sien en Allemagne, à une époque où la communauté était vraiment confrontée à un défi majeur. Et Rav Shimshon a su relever ce défi, notamment auprès des jeunes, en leur redonnant le goût d'une Torah, à la fois une Torah exigeante, une Torah authentique, mais pour autant une Torah très ouverte et une Torah qui fasse écho aux difficultés, aux problématiques qui étaient celles des jeunes du 19e siècle. Et c'est un peu ce qu'il nous lègue, ce qu'il nous transmet pour que nous puissions, à notre tour, faire exactement la même chose. Donc bien sûr ce message, c'est un message qui est particulièrement parlant. Je pense qu'il a été vraiment très apprécié par toutes les personnes qui ont assisté au repas de vendredi soir. Et donc il y a eu une autre intervention Shabbat midi, là j'étais moi malheureusement à une bar mitzvah. C'est aussi le rôle d'un grand rabbin, c'est d'être à droite à gauche pour être auprès de la communauté et des différentes smachot. Et nous avons eu dimanche là aussi un événement que j'ai trouvé extrêmement enrichissant. On regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde, mais on s'efforcera en tout cas d'essayer d'une manière ou d'une autre, en tout cas, de partager avec vous ce qui s'est raconté dimanche matin avec une table ronde avec notre ami David Uzan, directeur de l'école Akiba, sur les problématiques actuelles de l'éducation, parce que Dora, on ne l'a pas dit pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, on ne vous a même pas présenté. Vous êtes depuis 5 ans la directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Et alors, parlez-nous à la fois de ce rôle, parlez-nous peut-être rapidement de cette institution que sans doute beaucoup de personnes connaissent, mais qu'à la fois elles ne connaissent pas, parce qu'on la connaît trop mal finalement. On la connaît peut-être comme, on va dire, un monument de l'éducation juive en France et ailleurs, mais voilà, sans savoir exactement comment est-ce qu'elle a évolué et comment est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui.
Bien sûr, merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de parler de l'Alliance, parce qu'effectivement, je considère que c'est aussi à ce titre que j'ai été invitée. Je suis très honorée pour cette institution que j'affectionne particulièrement, pas seulement parce que j'y travaille, mais parce que je crois que la mission est doit être l'une des priorités aujourd'hui. Alors l'Alliance, bien entendu, a été fondée en 1860. Sa principale mission a été d'ouvrir des écoles juives dans des pays où les juifs souffraient de manque d'éducation. La particularité de l'Alliance, c'est qu'elle a disséminé l'enseignement en français et donc a été un partenaire très fort de l'État français à un moment où il y avait une guerre entre l'anglais et le français, quelle langue devait être parlée dans le monde. Et donc, en fait, l'Alliance a été fondée par des Israélites, comme on les appelait à l'époque, des juifs particulièrement convaincus d'aider l'autre sur la mission de l'assistance et de l'aide à l'autre, et qui passait par la formation des enseignants et par l'éducation des jeunes générations. Ces jeunes israélites français avaient bien réussi grâce aux conditions que la France leur donnait. Et donc c'est dans une sorte de vision reconnaissante envers la France et envers ses principes d'égalité et de fraternité qu'ils vont fonder l'Alliance et qu'ils vont appeler tous les Juifs à être solidaires. C'est la première organisation humanitaire juive qui va faire de l'éducation une mission humanitaire. Donc avant-guerre, il y a 50 000 enfants dans les écoles juives de l'Alliance qui vont jusqu'en Turquie, aux Balkans. Encore aujourd'hui, on parle des écoles en Liban, en Iran, en Syrie,
au Caire,
partout, etc. Encore aujourd'hui, on rencontre tout le temps des gens qui vous racontent qu'ils ont été des élèves de l'Alliance. Aujourd'hui, alors l'Alliance, quand il y a la décolonisation, les Juifs se disséminent un peu partout dans le monde, en Israël, aux États-Unis, et puis beaucoup arrivent en France. Et c'est là que l'Alliance prend conscience que si le modèle à la française est le modèle par excellence, il y a quand même une partie de la population juive qui tient à ce qu'il y ait une articulation forte entre la famille, l'école et la communauté. Et donc l'Alliance va créer et va fonder des écoles. Aujourd'hui, il y a 4 écoles en région parisienne. Il y a des écoles au Maroc et il y a des écoles en Israël via le réseau Kiar, puisque Kol Israël Haverim, c'est la traduction de Alliance Israélite Universelle. En tout cas, c'est la signification qui a été donnée. Mais l'Alliance, c'est bien sûr et aussi une bibliothèque qui a été fondée dès les débuts de l'existence de l'Alliance, qui a eu pour mission, premièrement, de documenter l'existence de ces pays dans lesquels les écoles de l'Alliance se trouvaient. Donc aujourd'hui, si vous êtes chercheur ou que vous êtes simplement passionné par l'histoire des Juifs du Liban, vous pouvez aller à l'Alliance et choisir parmi les 2,5 millions de documents d'archives de lettres, de photos. N'oublions pas qu'il n'y avait pas d'internet, donc quand on faisait un rapport, on écrivait des courriers, quand on avait des questions, on écrivait des courriers, puis il y a eu des comment est-ce qu'on appelait ça, des carbones, vous savez, quand on des polycopiés, mais qu'on écrivait des comptes rendus qu'on faisait sur des carbones, donc on a plein de choses.
On n'a pas connu ça,
non, mais ceux qui ont
un peu connu le fax,
ceux qui ont commencé, ceux qui même ont enseigné, quand avant la photocopieuse il y avait polycopiés au carbone, bref, c'était très très drôle. Et donc on a beaucoup de documents d'archives, mais on a aussi une bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est une collection de livres, tout ce qui sort à thème juif dans n'importe quelle langue. Et aujourd'hui, on te retrouve à la bibliothèque des livres qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Elle se situe où, la bibliothèque ?
6 bis rue Michel-Ange. Il faut aller sur le site dans le 16e arrondissement de Paris.
Belle adresse.
Il faut, voilà, l'adresse de l'Aigneau, effectivement, puisque l'Alliance est aussi cette école de formation, première école de formation des enseignants pour les hommes et les femmes. Donc un lieu pour des hommes, un lieu pour des femmes. Et puis donc dans cette cette bibliothèque, aujourd'hui, vous pouvez commander des ouvrages, les recevoir sur 48 heures, prendre rendez-vous. Donc, comment faire? On se rend sur le site de l'Alliance, on recherche l'onglet bibliothèque et on écrit un mail à la bibliothèque et on vous aidera, que ce soit pour des recherches de généalogie, des recherches personnelles ou des recherches plus scientifiques. Et c'est un élément très important de la vie de l'Alliance. Il y aurait d'autres choses à dire sur l'Alliance, mais peut-être que j'aurai l'occasion de le dire plus tard.
Une fois, alors, Advora, justement, disait un Shabbat Project où une partie du Shabbat était très orientée sur cette idée d'éducation, de transmission. Et puis, un dimanche matin, autour d'un brunch avec un directeur d'école, mm-hmm. que vous connaissez. Vous
Bien êtes, sûr.
Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus croisés.
Absolument, absolument.
On a réassisté quelque part à cette rencontre après que chacun ait fait son cheminement, j'ai l'impression. Et tout d'un coup, on se pose, on commence à discuter, puis la discussion s'ouvre. Comment, toi, après cette heure et demie de discussion, quelle est l'étincelle que tu gardes de cet échange?
Alors, monsieur le grand rabbin, je ne sais pas si vous allez partager ce sentiment avec moi, mais il est vrai que lorsque l'on fait le métier qu'on fait, puisque de manière tout à fait différente, on fait un peu le même métier. On est les porteurs de lumière, on essaye d'apporter la lumière là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus, où elle va presque disparaître. Dans ce métier qu'on fait, on ne peut pas ne pas faire une partie de notre travail qui ne nous intéresse pas beaucoup, qui est très... Enfin, c'est pas qu'elle nous intéresse pas, mais elle est au service de l'ambition que nous avons. Et comme elle est au service de l'ambition qu'on a, alors on a toujours l'impression qu'on délaisse ce qui est vraiment important. Et donc on s'occupe de choses qui sont...
Du quotidien,
routinier, tous les jours, etc. Et retrouver David ce matin, c'est me rappeler pourquoi je fais, l'essentiel. Pourquoi tous les matins je me réveille. Bien sûr, je me réveille pour gérer des budgets.
Bien sûr,
qu'on se réveille pour avoir des subventions. Bien sûr qu'on se réveille pour s'assurer que les écoles tournent bien, que la bibliothèque tourne bien, que nos donateurs sont rassurés, que nos philanthropes sont rassurés. Bien sûr, tout ça, c'est extrêmement important. Mais avoir cet échange dimanche matin avec David Uzan et avec la présence de tous les rabbins de la communauté, un dimanche matin avec des jeunes et des moins jeunes, ça me redonne l'énergie dont j'ai besoin pour fonctionner, l'essence dont j'ai besoin pour fonctionner, et me rappeler pourquoi est-ce que je suis au bureau tous les jours. C'est tout simplement pour penser aux défis qui nous attendent, aux urgences qui nous attendent, aux priorités qui nous attendent, et à faire des choix sur ces priorités. Et c'est vrai que je n'avais pas parlé avec David depuis 15 ans, mais j'avais l'impression de ne pas avoir arrêté cette discussion et cet échange avec lui, parce que les gens qui sont habités comme lui et moi par cette flamme, j'ai envie de dire qu'il nous a été donné au biberon par nos parents, par les gens qui nous ont éduqués, et qui font que tous les jours on se lève, c'est retrouver, c'est redonner du sens à notre mission.
Et alors ces trois priorités seraient quoi?
Alors je vais laisser le rabbin répondre, et puis comme ça je vais pouvoir mettre de l'ordre dans mes idées, parce que je suis encore sous le feu de l'émotion là.
Moi, j'ai fréquentant David Uzan presque tous les jours, toutes les semaines en tout cas, j'ai malgré tout toujours autant de plaisir à le retrouver, à l'écouter, parce que c'est vrai qu'il y a le David Uzan qu'on croise tous les jours dans la rue, avec qui on échange, parfois sur des, sur des sujets beaucoup plus personnels, et il y a le David Uzan dans sa posture de directeur d'école, nous délivrant sa vision comme il l'a fait ce matin.
C'est vrai que c'est pas souvent.
Sincérité.
C'est une rencontre comme ça, on se croit seulement souvent, quand par contre on n'a pas souvent ce temps de se dire venez, on se pose et on discute quoi.
C'était un peu l'objet d'ailleurs de la discussion, prendre le temps.
Voilà, et je crois que c'était intéressant. Je dis à la fois pour moi, là c'est le grand rabbin, parce que j'ai effectivement plusieurs casquettes. Je suis bien sûr parent d'élèves aussi. Mais en tant que grand rabbin, je crois que les réponses, les problématiques en tout cas qui ont été soulevées, chez la Tracham Khatsi Tshuva, une bonne question bien posée, c'est déjà la moitié d'une réponse. Et on sait que chez nous, c'est important de bien définir les questions pour pouvoir apporter les réponses les plus adéquates. Je pense que tout ce qui a été dit ce matin est extrêmement précieux aussi pour le grand rabbin que je suis, parce qu'on parlait des ponts qui existent entre l'école et la communauté. Finalement, les défis auxquels l'école est confrontée aujourd'hui, ce sont exactement les défis auxquels la communauté, aussi le grand rabbin que je suis, sommes confrontés. Donc je crois que c'était très important de pouvoir ce matin en définir les contours, avoir quelques éléments de réponse. Il y a eu des débats aussi intéressants, parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord. On a eu quelques réflexions assez intéressante. Et en tout cas, c'était vraiment un très très grand plaisir. Je pense une expérience.
On va le mettre par écrit.
Voilà, absolument.
Vora, un petit mot de la fin.
Écoute, qu'est-ce que j'ai envie de dire, que oui, aujourd'hui est arrivé, le temps est venu, le temps de faire une sélection des priorités. et de ne pas avoir honte de parler d'indicateurs de performance quand on parle du travail en communauté ou à l'école juive. On a beaucoup bâti, on a beaucoup construit, on a investi dans la pierre, on a de beaux locaux. Aujourd'hui, nous avons les élèves. On n'a pas à être inquiet. J'ai envie de dire que malheureusement, on a aussi les élèves qui nous arrivent parce qu'ils viennent pour se réfugier. Mais je tire une sonnette d'alarme. Attention à ces jeunes qui nous arrivent, qui veulent se réfugier à la communauté ou à l'école juive. Le projet de l'école juive, ça ne devrait pas être une ville refuge. C'est un lieu de création d'identité juive. Voilà, les villes refuges n'existent plus. Elles ne devraient plus exister. Et ce n'est pas le rôle de l'école juive. Donc j'ai envie de m'adresser aux parents qui font le projet de l'école juive. On doit faire, et bien évidemment que les portes de l'école juive sont ouvertes pour ceux qui veulent y trouver refuge, mais ça ne peut pas être le projet, ça ne peut pas être l'ambition. Si votre objectif c'est de trouver un refuge dans l'école juive, sachez que vous allez être très déçus, très déçus. Alors physiquement votre enfant sera protégé, mais à l'intérieur, son identité juive, son intellect, son développement émotionnel et intellectuel, lui ne sera pas satisfait, ne sera pas comblé. Donc le projet de l'école juive, c'est un projet d'identité juive. Et si on n'a pas le projet de l'école juive, j'ai envie d'inviter tous les parents à se poser la question: quel est le projet d'éducation juive pour mon enfant? On peut avoir un projet d'éducation juive sans avoir son enfant à l'école juive. Et encore une fois, il faut se poser la question: quel est le temps que je passe? C'est un peu ce qu'on s'est dit dimanche matin. Quel est le temps que je passe à discuter du projet d'éducation juive avec ma femme ou avec ma partenaire, avec ma conjointe, quelle qu'elle soit? Quel est le projet d'éducation juive que je transmets, que j'explicite auprès de mon enfant? Qu'est-ce que j'attends de lui? Est-ce qu'on se contente de parler d'éducation? Et quel temps je prends pour ce projet? Est-ce que ce temps-là, il est uniquement autour de la bar mitzvah? Ou est-ce qu'il est à d'autres moments? Lesquels? Est-ce que je fais l'effort de mettre les tefillin moi-même pour montrer à mon enfant que c'est important en tant que juif? Qu'est-ce que je définis? Chacun peut avoir son projet. Et je crois qu'effectivement, le secret de la réussite, c'est cette triangulation entre la famille, l'école et la communauté. Plus que triangulation, c'est le partenariat. Vous savez, quand on est partenaire, quand on signe un contrat, nous sommes légitimes à s'exprimer. Donc laissons la place pour que les partenaires s'expriment, créons des moments pour que tous les partenaires puissent s'exprimer, et je vous invite à écrire à votre rabbin et à lui poser des questions et à le challenger et à lui demander.
Ils sont très preneurs, hein. Il faut des gens, ça ne va pas toujours, mais...
Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est... Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai d'ailleurs une fois annoncé... Vous pouvez, mon mail, tout le monde peut m'écrire. Aujourd'hui, tous les parents peuvent m'écrire. Quand ils ne m'écrivent pas, c'est qu'ils ont trouvé auprès du directeur d'école ou de l'enseignant une réponse. Et c'est merveilleux, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais parlez, adressez-vous, posez des questions, questionnez. Et nous, de notre côté, en tant que porteurs de cette lumière de l'éducation juive, nous devons créer des moments et des cadres pour qu'on puisse tous se rencontrer, qu'on continue à être et qu'on puisse avoir nos réunions de conseil d'administration, des partenaires où tout le monde peut s'exprimer.
Génial.
J'attendais le génie.
Désolé, alors j'ai pas mis les danseuses aujourd'hui.
C'est une merveilleuse conclusion en tout cas pour cette chronique, Olivier. On était très très heureux.
Merci beaucoup, merci à vous.
On
n'a
pas eu le temps de parler
accueil.
D'Anvers, malheureusement, c'est une expérience commune.
Écoutez, oui, absolument.
Vous pouvez parler d'Anvers.
Est arrivé à Anvers jusqu'en moi, j'en suis parti.
Est-ce qu'on a encore 5 minutes, Harold?
Est-ce qu'on peut se prendre, on va se prendre vraiment à titre tout à fait exceptionnel 2-3 minutes quand même pour
il faut vous parler d'Anvers.
Voilà, pour parler d'Anvers.
Mais je crois que vous l'avez évoqué, monsieur le grand rabbin, je m'excuse, je vous précède, mais je suis, alors je vais vous parler à titre tout à fait personnel, hein, peut-être que certains ne seront pas d'accord. Je pense que la communauté juive de France a énormément à apprendre d'Anvers, de par la manière dont elle vit sa chassidoute. Anvers est une ville empreinte de l'étude de la chassidoute. Je crois que on a peut-être, pour certains, hein, je parle du grand public évidemment, je sais que les gens qui l'étudient savent exactement de quoi il s'agit, je pense qu'on a énormément à apprendre de la chassidoute, on en a énormément à enseigner. Je suis très heureuse d'entendre que vous utilisez des références et que vous enseignez la chassidoute et que vous l'intégrez dans votre enseignement quotidien. Pour moi, la chassidoute, c'est vraiment trouver l'équilibre entre l'intellect et les émotions. Et aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité par les faits, de par la violence dont on est victime. On est obligé de trouver cet équilibre entre l'intellect. On ne va pas tout résoudre avec l'intellect. Et il faut trouver cet équilibre. Vous savez, on parle beaucoup dans le yoga, dans les, toutes les théories un
tu
peu.
Fais du yoga, toi ?
Pardon ? Non, je ne fais pas de yoga encore. J'y arrive pas.
Bah,
Je n'arrive pas à méditer et je n'arrive pas à faire du yoga. Mais peut-être que je vais y arriver.
Du yoga pour l'équilibre.
Mais, en tout cas, on parle d'alignement du corps, de l'esprit, des émotions, de l'intellect. Et je crois qu'il faut aller encore observer à Anvers. Ce qui se passe en termes du développement et de l'enseignement de la chassidoute, et que ça vaudrait le coup de faire des choses là-bas et d'emmener les gens l'observer sur le terrain.
Mais nous, on parle de chassidoute avec oui. Carole.
Ah, voilà,
quand on
ça.
Parle de chassidoute, on parle aussi de chesed. Parce que dans le mot chassidoute, il y a la notion de chesed. Et la manière dont le chesed est pratiqué
oui.
à Anvers,
ah,
ça,
oui,
c'est tout à fait exceptionnel. Alors, on va dire que c'est un modèle un peu anglo-saxon, tel qu'il peut se pratiquer éventuellement aux États-Unis à plus grande échelle. Éventuellement à Londres, en Suisse, je pense à Vienne, ce sont des communautés que je connais très bien. Mais effectivement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ce qui se fait en matière de chesed, parce que souvent on s'enorgueillit un petit peu en France, on pense qu'on est toujours à la pointe vraiment de ce qui se fait en matière de chesed. Je dois avouer que ce qui se développe à Strasbourg depuis quelques années, et je pense vraiment très modestement pas du tout en être l'initiateur. J'ai essayé à mon humble niveau de partager certaines priorités qui étaient les miennes, et j'ai une équipe exceptionnel autour de moi qui m'a aidé à faire ce travail et qui le fait quotidiennement. Je pense notamment à toute l'équipe qui est engagée aujourd'hui, corps d'âme dans le social. Je pense au rabbinim Spingarn, le rabbin Gatzebag, le rabbin Yaakov Barchicha, tous ceux qui nous aident, le rabbin Saminéter aussi, qui a aussi un pied à l'intérieur de cet univers et de ce département.
Et toutes les associations.
Bien sûr, toutes les associations.
Avec lesquelles il y a une interconnexion.
Et tous les
bien sûr, c'est la manière dont nous avons resserré les liens avec les associations dont c'était déjà le corps de métier. Donc, bien sûr, on pense à la SJ, on pense à AVA, on pense à tous ceux qui font du Chesed à Strasbourg, Tzedaka Basseter, etc. Je veux oublier personne, mais on est reconnaissant, bien sûr, de la chaîne qui, très récemment, a développé et a donné une dimension encore vraiment plus puissante à cette chaîne du Chesed. Je peux vous assurer qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et quand je dis beaucoup à apprendre, encore une fois, c'est pas une manière de vouloir casser un petit peu ce qui se fait, ou c'est pas une manière de s'auto-flageller. Pas du tout. C'est tout simplement essayer de toujours voir plus grand. Je pense que l'ambition, lorsqu'elle concerne le Chesed, c'est forcément quelque chose de positif. Il y a absolument rien de malsain là-dedans, au contraire, lorsqu'il s'agit d'aider les autres, d'être tourné vers les autres. Je pense que le fait de voir grand, de voir loin, c'est quelque chose qui ne peut que nous amener à nous construire. Et donc,
franchement, je pensais que vous alliez parler d'Anvers, donc comme une ville, la communauté, les juifs. Là. Et puis tout d'un coup, en fin de compte, directement, vous êtes parti sur cette question de chassidoute, décliné sur la question de la spiritualité et puis de mélange avec l'émotion, l'intelligence, etc. Et puis du reset dans la. C'est formidable. Génial.
Je pense qu'on a essayé un peu de dire ce qu'on a vécu. Exactement. Il y a encore, bien sûr, beaucoup d'autres choses à Anvers, mais en substance, finalement, je pense que c'est ce qui reste d'une expérience de vie.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Merci beaucoup.
On est un peu en avance.
Encore merci.
À très bientôt.
Stéphane, qu'est-ce
que t'as ? Stéphane, qu'est-ce que t'as ?
Tout va bien.
Tout va bien. Alors Stéphane, raconte-nous un peu les dernières actualités, les prochaines, les suivantes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ?
Qu'est-ce qui arrive ? Alors, on va retrouver, on a la joie d'accueillir des nouvelles shlichot. On n'en a pas encore parlé, je crois, à la com en live.
Non.
Donc, on vient d'accueillir deux nouvelles shlichot pour le Bnei Akiva, donc qui sont arrivées maintenant la semaine dernière, il y a 10 jours, et qui vont commencer à animer les péoulottes du Bnei Akiva dès samedi, tous les samedis après-midi à la com, ça c'est comme d'habitude.
Ça y est, c'est une tradition maintenant, c'est de shlichot.
Ça y est, tous les ans on a d'autres shlichot et on est gâtés parce que ce sont toujours des gens qui sont très sympathiques et très dévoués.
Ouais, le sens communautaire.
Exactement. Et on va avoir comme d'habitude la tefila des kids tous les Shabbats. Et le prochain événement, c'est évidemment, on est en train de préparer Hanouka. Donc on est en train de préparer notre gros projet.
6800 cadeaux pour Hanouka.
613 cadeaux pour les
enfants. Ah que 613 ?
Et on va le jumeler cette année avec un projet pour les enfants d'Israël également,
ouais.
Dont on parlera dans les prochaines semaines, si tu veux, à la radio. On
ouais, avec finaliser. Plaisir, bien sûr.
Et on a également le 7 décembre, on revient avec nos soirées couple.
Ah, alors c'est quoi le thème cette fois-ci ? Laisse-moi deviner. Mexicain, brésilien.
Ah non, cette année on va rester dans l'actualité puisque. Il vient d'avoir les élections aux États-Unis, et ben on va faire une soirée américaine.
Génial, c'est quoi une soirée américaine ? Un maïs, hamburger.
Une soirée américaine, c'est hamburger, hot dog, c'est surtout une vachette électrique.
Non.
Si, bien sûr, évidemment.
Vas-y, raconte ça.
Et un photobooth où on pourra se prendre en photo avec des habits de cow-boy, de tenue un peu américaine comme ça. Voilà, un bon moment à passer samedi 7 décembre. À partir de 20h, ça le bloom.
Génial, voilà. Hein. C'est toujours un super moment. Attention, il faut réserver dès que ça sort parce que c'est devenu une soirée très prisée et que voilà. Ça reste une soirée qui est toujours ça le bloom, donc c'est limité en nombre de places.
C'est ça, exactement. Et puis on a repris, cette semaine, on a repris avec le goûter du rabbinat. C'est le rabbin Schwingern qui nous a fait l'honneur de reprendre après les fêtes.
C'est un format d'habitude qui se fait l'été, non ?
Ouais. Alors c'est le format effectivement qu'on fait plus en été, mais en été on fait ça... de différentes manières, ou le matin, ou à midi, ou l'après-midi. Et sur l'année, effectivement, déjà l'année dernière, on l'a transformé en goûter du rabbinat. Une fois par mois, il y a un de nos rabbins qui accueille le public pour un petit goûter, un petit dvar Torah.
Ça marche très très bien, j'ai vu la semaine dernière.
Hein. Il y avait plus que 30 personnes cette semaine, à 16h. Donc ça va, c'est une belle réussite, plus tout le Shabbat projet qu'on a eu. Voilà, on continue.
Génial. Et on travaille. Bon, je pense que tu as prévu d'aller au Shabbat à 6h du matin pour le Tikkun Léa avec faire les chanter
pour
avec
les Bakashat.
Hein, je compte sur toi.
Bien sûr, je serai là, évidemment, avec plaisir. Hein,
à 6h du matin, et après t'enchaînes avec les gamins pour la tuila des kids.
Exactement.
Bon, génial. Écoute, en tout cas, Steph, un petit détail encore, j'ai vu qu'il y avait la grande sortie à Europa Park du centre aéré, c'est ça ?
C'est ça, il y a ce sorti, comme ce sera les vacances la semaine prochaine.
Dans les écoles juives.
Effectivement, ouais. Il y a une sortie qui est organisée par le centre Noah, Europa Park, je crois que c'est mardi ou mercredi, je ne sais plus.
C'est, je crois, jeudi, voilà. Jeudi 28 novembre à 10h.
Voilà.
Bon, génial. Eh bien, écoute.
Un bon moment à passer pour notre jeunesse.
Je te remercie toujours d'être aussi disponible pour
avec
nous.
Plaisir. Avec
et on peut insister encore sur un dernier petit truc, c'est la collecte des paniers de la banque alimentaire qui est dans le cadre qui commence ce jeudi et qui a lieu tout le week-end et vraiment on compte sur vous pour pouvoir les soutenir.
Exactement, bravo.
Stéphane, merci beaucoup, à très bientôt.
Merci beaucoup, à très vite.
Génial. Au revoir. Salut. Chers amis, alors on arrive à la fin de notre émission, une émission assez dense avec la présence de Dvorah et bien sûr l'interview avec le grand rabbin. Stéphane, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et puis bien sûr, on vous retrouve la semaine prochaine pour notre La Comme en Live classique. À très bientôt.
Hola Omer. ¿Qué tal, amigo?
Un, dos, tres. Dale.
Todo es la música, deja la política.